Comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous parlons de la voix des femmes, voix de la femme, cette voix que nous percevons avant même notre naissance, voix de la mère, celle qui berce, celle qui raconte, celle qui initie à la parole et à l'occasion, celle qui gronde, voix utile, voix professionnelle, voix artistique, voix atypique, mais aussi voix cassée, voix abîmée. Si la voix façonne notre personnalité, elle reflète aussi notre bien-être, notre état de santé et peut donc devenir symptomatique de fatigue, de surmenage, d'angoisse et même, nous le verrons au cours de cette émission, le reflet de notre activité hormonale à nous, les femmes. Une voix façonnée par l'interaction des divers éléments de l'appareil phonatoire, larynx, bouche, dentition et même les fosses nasales. Et la voix a son vocabulaire propre, intonation, tessiture, vibration, harmonie, résonance, timbre, son registre, mais aussi ses virtuoses et ses spécialistes que l'on appelle au secours lorsque cette précieuse voix vient à flancher, à se voiler, à se briser, orfèvre de ce matériau précieux à qui Priorité Santé ouvre son micro pour cette émission qui est donc dédiée à la voix des femmes. La voix de la femme, c'est donc le titre du livre que vous venez de signer aux éditions Odile Jacob. Docteur Jean Bidbol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes otorhino-laryngologiste, médecin phoniatre, chirurgien cervico-facial et à ce titre, vous avez soigné de nombreuses voix célèbres. Faire de sa voix son outil de travail, voix vecteur de création, d'émotion, de connaissance. Avec nous, Anna Daniela Sestito, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste lyrique, cantatrice, soprano, soliste, professeure de chant, bien d'autres choses, on verra ça tout à l'heure. Et nous serons en ligne aussi dans cette émission avec Véronique Sanson, auteur, compositeur, interprète, voix carrière d'exception. Véronique Sanson qui nous a fait le plaisir de répondre à nos questions. Et puis nous donnerons aussi la parole au professeur Abdoulatif Hamdan, qui est ORL phoniatre, chirurgien cervico-facial à l'université américaine de Beyrouth au Liban. Et à la fin de cette émission, on va retrouver la chronique du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et on attend bien sûr vos questions au numéro de Priorité Santé 33 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Abidbol, on se rend compte en lisant votre livre que finalement, on ignore énormément de choses hein, sur cet instrument qu'on manie au quotidien. Beaucoup de choses à apprendre sur la voix, sur son vocabulaire, sur les organes qui entrent en jeu justement pour que ce son sorte et fasse sens. Comment ça se fait qu'il y a cette voix est tellement inconnue, méconnue?
Tout simplement parce que c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'on apprend à marcher à l'âge de 1 an et demi, 2 ans. C'est naturel, on ne va pas se poser la question, je mets un pas devant l'autre. Et la voix, on l'a ou on ne l'a pas, mais on s'en aperçoit quand on va la perdre. Quand brutalement, votre voix n'est plus au rendez-vous. Quand vous êtes en train de faire, vous êtes enseignante, ou bien même avec vos enfants, brutalement, la voix se casse et votre voix n'est plus là pendant 2-3 jours.
Comment est-ce qu'on la désigne comme un instrument, un outil, une compétence?
Alors, c'est une excellente question, c'est beaucoup plus que cela. La voix est à la fois l'instrument, le créateur et la vibration de votre personnalité. C'est une véritable alchimie entre la raison et l'émotion. J'irais un peu plus loin, comme un Stradivarius, c'est le violon. Alors, vous respirez, et bien les poumons, c'est la force de votre voix, c'est la puissance de votre voix. La vibration se fait au niveau du cou, en regard de la pomme d'Adam chez l'homme, il n'y a pas de pomme d'Ève, on pourrait presque dire cela, et c'est là où se situent les cordes vocales. On n'a que 2 cordes vocales. Et puis, ça ne suffit pas. Il y a une caisse de résonance. Si je vous dis 1, 2, 3, là je viens tout simplement de boucher mon nez, mes cordes vocales n'ont pas changé, mon souffle n'a pas changé, mais la résonance a changé. Et on prend un violon. Le violon, le Stradivarius, lui, a une certaine forme et il a un nombre de cordes qu'on appelle 4 cordes. L'archer va venir frotter sur ces cordes et va donner la vibration. Mais la main qui va guider l'archer, c'est l'émotion de votre voix. La façon dont on va jouer, vous prenez Yehudi Menuhin ou Isaac Stern, la façon dont ils vont jouer, vous allez vibrer d'une façon différente. Pourtant, c'est le même instrument. Maintenant, si vous prenez un élève lambda, vous allez écouter la technique. ça n'a rien à voir avec l'émotionnel de la voix. Donc la voix est un mélange de tout cela, à la fois instrument et à la fois reflet de ce que nous ressentons à l'intérieur.
Une alchimie, docteur Jean Abitbol, comment est-ce qu'on peut expliquer, même si ce n'est pas toujours facile, qu'on trouve certaines voix agréables et d'autres absolument épouvantables?
Alors, c'est dû à deux facteurs simples. Notre culture, d'une part, et puis la résonance que nous avons de certaines voix qui sont ces voix de crécelle, ces voix très aiguës comme ça qui sont insupportables parce qu'elles viennent quelque part perforer le cerveau. On est absolument subjugué, séduit par ces voix graves, alors la raison, elle est simple. La raison, elle est due à la femme. La femme, on devrait presque dire, non pas Adam et Ève, mais Ève d'abord et Adam après. Car à ce moment-là, on le voit avec Kidjo, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui, dans ses chants, lorsqu'elle chante, on a l'impression que l'Afrique chante. Quand on écoute Véronique Sanson, le piano danse dans sa voix. Donc dans ces éléments-là, c'est pas seulement une vibration, elle apporte autre chose. Et si j'ai le temps, je vais raconter une anecdote qui va vous faire comprendre cela. Comment l'empreinte vocale de la femme vient façonner notre propre existence. On a pris des prématurés entre 7 mois et 9 mois, et on les a, à ce moment-là, ils sortent de leur maman trop tôt, bien sûr, ce qu'on appelle les grands prématurés, on les met dans des couveuses. À ce moment-là, il y a 20 prématurés qu'on a pris, c'est une expérience qui a été faite par une équipe franco-israélienne, et ces prématurés, on les a laissés avec bip-bip, bip-bip, le bruit de la salle de réanimation. 20 autres prémas, on a mis dans leur couveuse le bruit enregistré du stéthoscope du cœur de la mère, dans un studio extrêmement spécialisé, qui permet d'entendre tchitchou, tchitchou, le bruit cardiaque de la mère, qu'ils entendent dans le ventre de la mère. Et plus que cela, on a également enregistré la voix de la maman qui parle, qui chante, mais en enlevant, c'est ça qui est remarquable, les suraigus. Car les suraigus ne passent pas à la barrière du liquide amniotique.
Donc on retransmet le son qu'il aurait entendu s'il était resté dans le ventre de la maman.
Exactement. Et que se passe-t-il? On a fait un test de leur cortex auditif, c'est-à-dire au niveau cérébral, comment la projection auditive se fait. Eh bien c'est simple. Les enfants, plus de du double des enfants qui ont eu cette chance d'avoir cette expérience, peuvent parler entre l'âge de 9 mois et 12 mois, alors que les autres c'est à 24 mois. On voit que l'empreinte vocale de la mère a influencé cela.
Voix très émotionnelle, hein, vous l'écrivez au début de votre livre, voix féminine éminemment émotionnelle. On va entendre une de ces voix avec nous pendant cette émission, Anna Daniela Sestito. Vous considérez votre voix comment? Tout à l'heure on disait difficile de définir cette fameuse voix. C'est un instrument, c'est une alliée, c'est une chance?
Je pense que c'est tout ça ensemble. Moi je ne suis pas trop d'accord à considérer la voix comme un instrument. C'est quelque chose qu'on a en nous, donc c'est notre corps, c'est notre esprit, c'est notre âme qui parle. Ce n'est pas comme jouer du piano.
Ça ne se pose pas à côté de soi.
Non. Et dans la pratique quotidienne, on le voit bien.
Comment est-ce que vous avez pris conscience que vous pouviez justement jouer, moduler, manipuler votre voix? Je n'ai pas utilisé le mot d'aisance parce que ce n'est pas facile, mais en tout cas, avoir cette envie d'employer cette voix pour en faire quelque chose d'exceptionnel.
C'est quelque chose qui est, je pense, inné. À un moment donné, on sent ce besoin, on ne sait pas d'où ça vient. Et on doit l'exprimer de quelque manière. Donc, on chante, on parle d'une manière différente par rapport aux autres. Mais ce sont les autres qui nous renvoient ça. Parce que forcément,
ils vous disent quoi? Comment ça se passe? Ta voix a quelque chose? Tu me touches quand tu me parles?
Oui, quand j'étais adolescente, surtout, on me disait que ma voix, ça plaisait énormément, qu'elle avait des couleurs dans la manière dont je parlais.
Oui, mais le passage du parler au chanter, parce qu'il y a des gens qui ont des belles voix à écouter quand ils parlent, mais quand ils se mettent à chanter...
C'est pas la même chose, voilà. Je suis d'accord.
Alors vous, comment ça s'est passé, justement, cette transition vers le chanter, avec aussi, là aussi, un rendu qui était satisfaisant?
Je commençais à chanter comme on fait normalement en Italie, j'imagine, dans les églises, dans les cours de l'oratorio. Et ce que j'aimais faire, c'était aussi de chanter les chansons que j'entendais à la télé, surtout les dessins animés, des chansons comme ça, et comme ça dans la journée, c'était des mélodies que j'avais toujours dans la tête et je les chantais comme ça normalement et je me rendais même pas compte de chanter. C'était les autres qui me le faisaient remarquer, me disaient écoute, tu chantes tout le temps. Je disais excuse-moi, je suis désolée. ça me vient naturel. Voilà. Et après, effectivement, j'ai pensé d'en faire pas un métier, mais de me dire, il faut que je fasse quelque chose avec ma voix. Est-ce que, si c'est un talent naturel, je peux le transformer, je peux le façonner, je peux le structurer pour que ça devienne quelque chose d'artistique?
Docteur Jean Bidbol, qu'est-ce qui physiquement différencie les voix d'exception, les voix de chanteuses ou même d'imitatrices des autres? Est-ce qu'il y a la génétique qui entre en ligne de compte ou c'est juste du travail ou même du talent?
Je vais rebondir sur ce qu'on vient de dire. C'est qu'en fait, quand on chante avec passion, on est une artiste. On ne fait pas un métier. C'est pas je chante de telle heure à telle heure. À partir de là, son véhicule émotionnel, et je suis d'accord que la voix n'est pas seulement l'instrument, mais c'est le véhicule, la voix, l'instrument et le véhicule, existe d'emblée. Avoir un don, il faut avoir un don. Mais la force de ce que je viens de dire, et j'aime beaucoup ce que vous avez dit, c'est le côté du talent. Le talent, c'est travailler ce don. Alors, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'il fait que c'est bien sûr d'avoir un don au départ, mais il ne suffit pas. On a tous plusieurs dons, mais le talent, c'est de travailler celui-ci, d'aimer ce que l'on fait, et surtout de, quelque part, se faire plaisir en faisant plaisir aux autres. On ne chante pas paradoxalement pour les autres, on chante également pour soi, pour partager ce moment extraordinaire de vibration avec l'autre. C'est très différent de pas mal d'autres artistes, comme la peinture, comme la sculpture, où quelque chose est posé, c'est fini, il est là, on le voit, on le regarde. La voix, c'est impalpable. Elle se crée tous les jours. Et en Italie, c'est magnifique, vous allez partout, c'est pas un hasard si l'opéra italien est superbe, enfin, moi j'adore, et qui fait qu'effectivement, ils chantent avec des voyelles. Et oui. En Italie, pour reprendre, j'ai la chance d'avoir une soprano italienne à côté de moi, faut savoir quand même qu'en Italie, plus de des deux tiers des femmes ont des petites nodules, des petites aspérités sur les cordes vocales qui donnent cette voix justement qu'on dit pas parfaite, car la voix parfaite n'existe pas. Vous allez au Japon, c'est à peine 2% des femmes. Donc la culture au niveau vocal est fondamentale.
On parle différemment en fonction des lieux où on est aussi.
Des lieux où on est, de la fréquence de la façon dont on va parler, de la force avec laquelle on va parler. En Afrique, par exemple, avec Kidjo, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans, elle a une petite anomalie des cordes vocales qui lui donne cette force incroyable. Et elle, sa voix, on a l'impression que c'est des percussions. Et à un moment donné, elle devient extrêmement chaleureuse, un peu comme j'allais dire, une chanteuse de blues. Donc elle sait jouer avec les deux. Mais jouer avec sa voix comme une percussion, c'est propre à Angélique Kidjo. Tout le monde ne peut pas faire ça.
Alors, on va vous retrouver dans quelques instants, docteur Jean Bidbol, Anna Daniela Sestito. On a encore, bien sûr, énormément de questions à vous poser.
Ça, je l'ai bien connu. Je mène ma vie comme un radeau perdu. Les gens de la nuit sont toujours là quand il faut. Ils vous accueillent avec des rires et des bravos.
Tout de suite, nous allons rejoindre une femme, une voix que nous connaissons bien, Véronique Sanson, bonjour.
Bonjour.
Et merci infiniment de nous donner un peu de votre temps, tant précieux. Ensemble, on va parler de votre voix.
Mais je vous en prie, c'est un plaisir, au contraire.
Voix singulière, une voix inattendue parfois, qui a fait votre empreinte de Vancouver à Quand je suis loin de lui, plus près de nous, je l'appelle encore. Est-ce que vous avez eu conscience tôt que votre voix était précisément singulière, Véronique Sanson?
Pas tellement. Au tout début, j'avais ce vibrato que je peux plus supporter maintenant, mais ça a changé. Mais j'étais pas trop consciente de ma voix. Je chantais comme je pouvais. Je chantais vraiment les choses que je pouvais chanter.
Est-ce que vous chantiez, Véronique Sanson, enfant? Est-ce que c'est une petite fille qui chantait? Est-ce que c'était une petite fille dont la voix vibrait déjà?
Ah non, pas du tout. J'avais une voix plate, j'avais aucun vibrato. Et c'est ça qui m'a terrassée, parce que j'entendais Dionne Warwick, j'entendais toutes ces chanteuses françaises et anglo-saxonnes qui avaient un vibrato. Et je me disais, mais pourquoi moi j'ai pas ça? Par exemple, les Brésiliens ont une voix très plate. Ils ont pas de vibrato.
Ça veut dire que vous aviez une ambition de voix, vous aviez un idéal, vous vouliez tendre vers ces voix-là, ces voix puissantes.
Ah oui, absolument. Je voulais ça. Alors j'ai commencé à vibrer à la croche, si vous voulez. Ça fait et donc évidemment, je peux plus supporter ma voix.
Maintenant. À quel moment votre voix a mûri et a commencé à ressembler à quelque chose qui vous ressemblait plus?
Ben, il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'il y a à peu près 10 ans. Autrement, j'arrivais pas à refaire ma voix plate. Et ça m'énervait parce que je me disais, je suis capable de faire que ça et de vibrer.
Et justement, voilà. cette ondulation, ces vagues que l'on entend dans votre voix, c'est quelque chose aujourd'hui que vous n'aimez plus. Pourtant, c'est ça aussi qui faisait la voix de Véronique Sanson.
J'aime bien parce que j'ai réussi à contrôler ma voix. Et en plus, j'ai vieilli. Quand on vieillit, on change de voix. Les ténors passent baryton, les barytons passent de baryton basse, mais les sopranes, on leur en veut toujours, évidemment, parce que c'est des femmes. Bien évidemment. Donc, on ne peut pas supporter que Maria Callas soit alto.
L'âge est plus impitoyable pour les voix de femmes, et certaines critiques le sont peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on a dit de votre voix? J'ai en tête, par exemple, quand on a parlé de la voix de Julien Clerc, justement, ses ondulations. Certains osaient dire qu'il bêlait, des choses très cruelles. Est-ce qu'on a dit aussi des choses sur cette voix, finalement, qualifiée? Parce que dès qu'on a une voix atypique, cela vaut, si ce n'est des critiques, au moins des remarques.
Ah, mais bien sûr, mais vous savez, dans le midi, il m'appelait la cabrette, petit cabri.
Et vous diriez que votre voix, elle est plutôt fragile ou finalement assez résistante?
Écoutez, après tout ce que j'ai vécu, je pense qu'elle est assez résistante, mais elle est très fragile en même temps, parce qu'il m'arrive tout le temps des misères et des... Puis vous savez, chanter tous les soirs pendant 2h30, bon, bah, ça fatigue la voix, c'est vrai que ça la fatigue. Et puis, si on ne fait pas des exercices, on ne peut pas passer sa vie à faire des exercices toute la journée, quoi.
Et être ainsi tributaire de son corps, de sa voix, bien sûr artistiquement parlant, mais aussi professionnellement parlant, pour gagner sa vie, est-ce que ça nécessite un suivi particulier? Est-ce que ça veut dire qu'on a toujours le numéro de son phoniatre sous la main?
On a toujours le numéro de son phoniatre sous la main, et on a toujours le numéro de son coach vocal sous la main. C'est très important d'abord de travailler sa voix parce que c'est un muscle, et puis c'est un muscle qui est alimenté par toutes sortes de choses. On est dépendant de tout dans la voix, que ce soit les hommes, les femmes, mais les femmes plus.
Dépendant aussi de, on l'a dit tout à l'heure, il y a l'âge qui entre en compte, l'hygiène de vie. À ce propos, Véronique Sanson, vous l'avez sous-entendu, vous ne l'avez pas ménagé. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vous avez une hygiène de vie justement pour protéger ce trésor qu'est votre voix.
Écoutez, oui, mais beaucoup plus qu'avant, évidemment. Je fais vraiment attention à moi et à tout ce qui pourrait détruire, justement, ce qui me fait vibrer, c'est le cas de dire, et ce qui me fait vivre dans ma tête, dans mon âme, vraiment ce qui me donne des étoiles dans les yeux.
Tout à l'heure, vous disiez qu'il vous a fallu un petit peu de temps pour vous mettre à aimer votre propre voix. Aujourd'hui, Véronique Sanson, est-ce qu'il y a
des... Oui, ça m'a mis maintenant. Je chante plus comme avant, les premiers albums. J'avais une voix très aiguë. Évidemment, j'avais 21 ans, alors. Et c'est normal que la voix parlée vieillisse aussi. Vous n'avez pas la même voix, vous, quand vous aviez 15 ans, que maintenant.
Non, j'aurais fait un petit peu peur. Véronique Sanson, aujourd'hui, les voix de femmes, et même celles d'hier, c'est quoi ces voix de femmes qui vous font vibrer?
Il y en a beaucoup, dans beaucoup de domaines différents. Et évidemment, il y a Maria Callas, alors là, vraiment, qui tenait de l'émotion, mais une émotion extraordinaire. Moi, ce qui m'intéresse dans les voix, en fait, c'est l'émotion. L'émotion, c'est quand on chante avec son cœur et quand on ressent les paroles qu'on chante. Vous savez, c'est comme un tableau, où ça vous parle, où ça vous parle pas.
Merci beaucoup, merci Véronique Sanson d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Et on vous souhaite tout le meilleur pour votre retour sur scène, pour donner de la voix. Merci beaucoup. Et de l'émotion.
Merci à vous et un gros baiser à Jean.
Ce sera fait, merci beaucoup, au revoir.
Je n'ai besoin de personne pour
On retrouve nos invités dans les studios de RFI, Anna Daniela Sestito, artiste lyrique, docteur Jean Abitbol, ORL phoniatre. Phoniatre, on l'a compris de Véronique Sanson, relation de proximité justement. Est-ce que quand on travaille comme ça avec des artistes, ça oui. implique une relation médicale, mais une relation peut-être autre que médicale aussi ?
Médicale, c'est vaste. Médicale, c'est pas seulement traiter, entre guillemets, un robot physique. 90% est dans la poignée de main que vous allez faire avec votre patient.
Et le regard.
Et le regard. Et partager la souffrance de l'autre qu'il va vous transmettre. Et surtout, la confiance à lui permettre de dire des choses et de vous avouer des choses qu'il ne, quelquefois, il a du mal à s'avouer lui-même ou elle-même. Et dans le cas de Véronique, quand elle dit j'ai beaucoup de choses, oui, il y a également une chose dont elle ne parle pas. C'est toute sa vie qui a été un tumulte psychologique également et un tumulte émotionnel entre Paris, Los Angeles, tous ses voyages. Mais ce qui est superbe, c'est ça l'artiste. L'artiste, c'est quelqu'un qui, quelque part, on sent sa fragilité. Et pourquoi on aime Véronique Sanson et on aime toutes ces chanteuses, on écoute quelque part cette fragilité et à quel moment on est dans la rupture. Et quand elle dit « le vibrato, j'aimais pas et maintenant c'est mieux » parce que elle s'assume elle-même. Elle est OK avec elle-même, elle n'essaye pas d'être quelqu'un, elle essaye juste d'être elle-même complètement. C'est ça qui est beau.
Anna Daniela Sestito, on parle peu de technique, beaucoup d'émotions depuis le début de cette émission. Justement, quand vous montez sur scène, l'instrument, la voix ne se pose pas à côté, les émotions non plus. Donc, on amène tout ça sur scène. Des fois, est-ce que c'est plus compliqué de donner de la voix quand on est justement submergé par certaines émotions ?
Personnellement, je pense que quand on monte sur scène, il faut laisser l'émotion de côté pour transmettre l'émotion au public. Si nous-mêmes, nous sommes touchés par notre propre voix, on oublie complètement le côté technique, donc rien peut passer.
Mais le bagage psychologique, par exemple, ce qu'on a vécu avant, si on a eu un souci, si on a eu quelque chose de douloureux, comment on fait justement pour donner le meilleur de son corps et de son émotion
c'est
au public
technique. C'est la technique qui nous vient en aide. Je suis...
Là, c'est le travail.
C'est le travail. Le travail quotidien, méthodique, structuré, organisé, qui vient en aide dans les moments difficiles, dans les moments particuliers, dans les moments où il faut assurer, où la place à l'erreur n'est pas été...
Impossible. Oui, c'est impossible. Impossible.
C'est vrai que si on prend les sopranos qui sont le... Sans être... comment vous dire, sans faire de différence, mais c'est le summum du chant qu'on attend. Et quand on écoute la Callas, quand je mets dans mon livre, dans votre femme, je parle de la Callas et de la Tebaldi, la Callas, elle venait déchirer la robe quand elle chantait. Est-ce qu'on, dans sa fragilité, pour reprendre votre question, oui, il y avait tout son monde derrière, mais elle interprète quelque chose. Elle ne vient pas y se livrer, elle vient livrer un rôle dans lequel, quelque part, et vous avez raison quand vous dites... Le monde émotionnel, elle l'a pas effacé. Elle habille sa robe, mais elle déchire ses robes de l'émotion. Alors que la Tebaldi, ayant une excellente technique, elle habille sa robe et on l'écoute avec un classicisme. C'est pas la même chose. Mais dans un cas, vous avez une énorme fragilité de l'artiste qui, quelque part, à un moment donné de sa vie, j'en parle dans le livre, il va y avoir une rupture. Et le propre de l'artiste, c'est attention à cette rupture, ce que vous disiez tout à l'heure remarquablement bien, ne pas mélanger vraiment son totalité émotionnelle de soi-même par rapport au rôle qu'on veut donner.
On dit aussi qu'on se ménage, c'est pas pour rien. On se ménage,
on se protège.
Quand on est sur scène, on interprète un rôle. Oui. On ne délivre pas nous-mêmes. Même, il est clair qu'une partie de nous-mêmes est là. C'est notre corps, notre esprit,
mais
notre âme qui est sur scène. Mais là, il faut donner quelque chose au public, il faut répondre aux attentes. Et c'est notre talent, notre technique et ce côté artistique en plus qu'il faut donner et pas notre émotion personnelle.
Docteur Jean Abitbol, dans votre livre, vous consacrez un développement très intéressant à l'impact des hormones sur la voix. Oui. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce point parce que là, pour le coup, c'est vraiment une découverte avec notamment... la définition du syndrome vocal prémenstruel. Je pense que beaucoup de femmes l'ignorent. Alors, de quoi s'agit-il ?
Oh, c'est une très belle histoire. C'est une histoire où dans les années 90, si vous voulez, des femmes venaient me voir depuis quelques années en me disant, voilà, j'ai un problème, tous les mois ma voix se casse. Je dis, ah bon ? Oui, tous les mois. Et moi, un peu macho, je dis, oui, c'est psycho, quoi. Ça va, quoi. C'est bon, c'est les hormones. Et en fait, le psychologique a reculé de 95% grâce aux technologies que nous avons. Quand on dit c'est psycho, c'est la poubelle, c'est qu'on comprend pas. Alors c'est facile, on a pris un bouclier. Et puis j'ai une idée un petit peu folle, même complètement, peut être un peu fou quelquefois, et je me suis dit, il y a un cycle menstruel vocal, c'est-à-dire que chez près d'un tiers des femmes, et c'était déjà au fin du 19e siècle, à la Scala de Milan, les femmes qui avaient leurs règles ont payé leurs prestations, mais n'avaient pas le droit de chanter. En disant, voilà, ça s'appelle The Grace Day, ils ont mis un mot anglais, je sais pas pourquoi, alors que le mot italien est tellement beau. Et je me dis, il y a un problème. Mais quel est ce problème? Et l'idée un peu folle, c'est d'avoir fait des frottis, comme on fait en frottis gynéco, des cordes vocales. C'est-à-dire que par le fibroscope, on met une petite brosse, qu'est-ce qu'un frottis? On brosse, comme on brosse la peau, on prend quelques cellules, tout simplement, et on les analyse. Mais j'ai été beaucoup plus loin, j'ai demandé que le même jour, on fasse un frottis gynéco, un frottis du col de l'utérus. Et j'ai montré ça à un monsieur qui s'appelle le professeur De Bruyss, qui est plus là avec nous aujourd'hui, et à l'époque, je pense en 90, il avait 84, 85 ans, et j'ai dit, voilà monsieur, analysez ces deux frottis, dites-moi ce que vous en pensez. Et la réponse a été extraordinaire. Il m'a dit, mais attendez, c'est deux frottis de col utérin, mais le deuxième, c'est un col utérin, mais bizarre, c'est quoi? J'ai dit, non monsieur, c'est des cordes vocales. Donc il existe un cycle menstruel à cordes vocales. Seulement un tiers des femmes ont une voix légèrement cassée avant les règles, et ce tiers en question est extrêmement paradoxalement beaucoup plus sensuel, parce que l'impact des hormones à ce moment-là est beaucoup plus important. Et là, effectivement, le syndrome vocal prémenstruel fait qu'aujourd'hui, je donne des traitements depuis plus que 20 ans, qui sont des polyvitamines, car il y a une perte de sang lors des règles. Ben, il y a le magnésium, il y a le fer, il y a le calcium, il y a les vitamines B1, B6, B9, B12, qui évitent, chez les professionnels de la voix, les enseignants, les chanteuses bien sûr, les speakers bien sûr, les secrétaires, d'éviter cette chute de voix qui font des douleurs abdominales, qui provoquent une baisse de la puissance vocale, et puis également un édème des cordes vocales.
Anna Daniela Sestito, est-ce que vous avez constaté, vous, des changements vocaux en fonction de votre activité hormonale?
Oui.
Vous le ressentez?
Oui.
Alors qu'est-ce que vous faites? Vous avez des trucs, des techniques pour passer le cap? Parce que j'imagine qu'il y a des récitals qui sont prévus, y compris pendant ces jours différents.
Je fais une chose toute simple. Je l'ignore et je continue mes exercices et ma technique comme si rien n'était.
Ça n'entrave pas suffisamment pour justement non. Vous empêcher de travailler?
Non. Même s'il y a l'obstacle, j'essaye de le dépasser, de le surmonter. Je ne vais pas me faire une fixation là-dessus. Donc, je sais que c'est normal. Chaque mois, on a ce rendez-vous et il faut faire face.
On fait face. Oui. Alors, tout de suite, justement, on va voir comment ça se passe quand on a une voix qui ne correspond pas vraiment à notre idéal. On va prendre tout de suite un auditeur en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Un auditeur qui a une question à vous poser, docteur Jean Abitbol. Cet auditeur, c'est Peter. Il nous appelle du Burkina Faso, de Ouagadougou. Bonjour, Peter.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute, Peter.
Les gens confondent ma voix de celle de la femme. Et puis, ça m'énerve. Je ne sais pas comment faire pour améliorer ma voix, pour avoir la voix d'un homme.
Ça vous pose particulièrement des problèmes, par exemple, au téléphone?
Ah non, non.
Vous dites, on dit que ma voix ressemble à une voix de femme. C'est ce que vous disent les gens ou ils vous confondent vraiment avec une femme quand ils vous entendent? Parce que, à vous entendre, moi je trouve que vous avez la voix aiguë, mais je ne confondrais pas avec une femme.
Ah, la plupart des gens me disent que j'ai la voix d'une femme. Et puis,
alors,
ça m'énerve.
Docteur Jean Abitbol, Peter est énervé par cette confusion.
Voilà, c'est intéressant parce qu'en fait, il ne faut pas confondre la fréquence aiguë, la fréquence grave, voix de femme et voix d'homme. Et là, ce qui est troublant, c'est comme il a une voix effectivement légèrement aiguë, immédiatement sa confusion, c'est qu'il s'entend lui-même comme une voix très aiguë. Donc il a un vécu de sa voix qui n'est pas forcément le vécu de ce que les autres l'écoutent. Et là, il y a un conflit entre sa voix et lui-même. Dans ce conflit, il y a deux choses à faire. La première, bien évidemment, c'est d'examiner, car rarement, mais ça existe, des hommes qui ont des voix très aiguës ont des cordes vocales qui ne sont pas suffisamment développées, alors que tout le reste l'est, sur le plan masculin, mais ils ont ce que nous appelons une petite atrophie, c'est-à-dire que le muscle vocal n'est pas suffisamment épais, si je puis dire, pour donner une voix grave. Et à ce moment-là, on a un geste chirurgical que je fais que dans 2% des cas. Donc c'est très rare. On injecte dans la corde vocale une substance qui va alourdir et quelque part grossir la corde vocale pour donner une voix grave. Puis le deuxième, quand c'est un conflit d'abord, et on traite d'abord cela comme cela pendant minimum 4 à 6 mois, de rééducation vocale, ce qu'on appelle l'orthophonie, réadapter sa voix, et ça va vous surprendre, mais pas vous qui chantez, je fais rééduquer ses voix très souvent, rééducation classique, mais systématiquement demandant des cours de chant. Pour quelle raison? Car le chant est quelque chose de magnifique. C'est une voix parlée, chantée, mais ça vous impose de gérer votre émotion, car le cerveau droit se met immédiatement en marche quand vous chantez.
Et donc, Peter, est-ce que personnellement, par exemple, vous chantez ou vous détestez tellement votre voix que vous ne chantez plus?
Oui, c'est effectivement. Quand je fais un message vocal sur WhatsApp, ça, moi-même, quand j'écoute ça, ça ne me plaît pas.
Oui, donc vous êtes vraiment pas du tout en accord avec votre voix. Est-ce que vous auriez la possibilité de faire des cours de chant pour essayer d'améliorer tout ça?
Ah oui, possible.
Plutôt qu'aller voir un médecin, des fois c'est même plus simple, hein, surtout quand on est à Ouagadougou, d'aller voir un professeur de chant qui vous aide à vous réconcilier aussi d'une certaine manière avec votre voix.
Surtout dans le chant africain, parce que ça a une puissance extraordinaire, beaucoup plus que dans notre monde occidental. Le chant est quelque chose, est un média qui fait parler et gérer, et surtout ouvrir beaucoup de choses, et découvrir beaucoup de choses.
Voilà Peter, souvent à la fin des appels téléphoniques avec les auditeurs, on dit « allez consulter », ben aujourd'hui on va vous dire « allez chanter ». C'est quand même plus agréable.
Merci
beaucoup, Peter, de cet appel de Ouagadougou. Docteur Jean Abitbol, quand on parle d'une extinction de voix, on parle de quoi exactement?
Tout simplement, c'est quand je vous parle comme ça, c'est que la voix, elle est partie. Alors, il y a deux formes d'extinction de voix. Il y a une forme qui peut être...
Vous faites bien Marlon Brando.
Voilà, qui est une forme, tout simplement, on a la fatigue vocale et la voix s'éteint. Puis la deuxième, ça, c'est ce qu'on appelle l'extinction aiguë. Et puis chronique, ça peut être une cause médicale. On a été opéré, sur le plan cardiovasculaire, on a une corde vocale qui est paralysée. Et à ce moment-là, il y a un souffle dans la voix. Et la corde vocale ne bouge plus. Donc, il y a un souffle. Deuxième point, on a une laryngite infectée. Troisième point, et c'est aujourd'hui de plus en plus fréquent. Plus de 70% dans les patients que je vois ont ça. Et plus fréquent chez la femme, beaucoup plus, parce qu'avant les règles, eh bien, justement, il y a une fragilité gastrique. Et à la ménopause encore plus, c'est le reflux gastrique. C'est des acidités qui montent de la gorge et qui viennent dessécher les cordes vocales. Et s'il n'y a pas suffisamment de lubrification, c'est-à-dire d'humidité sur la corde, quand je fais un « c'est quand même 180 fois par seconde que mes cordes vocales vibrent. Si j'ai pas un lubrifiant sur mes cordes vocales, je peux pas tenir.
Ce qui peut expliquer que le matin, par exemple, on a des voix très rauques,
parce que on les a pas utilisées et qu'il y a une sécheresse qui s'est installée pendant la nuit pour deux raisons. La première, c'est que les gens qui respirent mal par le nez respirent par la bouche, et respirer par la bouche dessèche la gorge. C'est qu'on a un problème au niveau nasal, une déviation de la cloison nasale, une rhinite chronique. Et puis la deuxième, très simple, c'est que quand vous êtes allongé, l'estomac, lui, est allongé aussi et renvoie des mucosités acides dans la gorge.
Anna Daniela Sestito, vous avez déjà connu des moments où, comme ça, vous étiez complètement à faune. Qu'est-ce que vous avez fait?
Oui, ça m'est arrivé une fois, c'était traumatisant. Je devais chanter un Gloria de Vivaldi, j'étais le soprano soliste, et je faisais ce voyage de la Calabre jusqu'à Rome, parce que le concert se passait à Rome. Et pendant le voyage, petit à petit, je sentais quelque chose qui allait pas. Arrivé à Rome, je n'avais plus de voix. Mais pas de voix pour chanter, de voix pour parler.
Silence.
Silence total. Donc, je suis allée voir en urgence un phoniatre, bien sûr. En toute urgence, il m'a fait une piqûre de cortisone pour voir si ça pouvait s'améliorer. Non, elle a disparu complètement.
Mmh. Et combien de temps?
Je n'ai pas le souvenir, mais j'ai le souvenir que je n'ai pas pu chanter ce soir-là.
Et juste une question, quand vous avez fait ce voyage entre la Calabre et Rome, un pays que je connais très bien, vous étiez seul ou vous étiez avec quelqu'un? Vous avez parlé pendant le voyage?
J'ai parlé pendant le voyage.
Et vous étiez en train?
Et j'étais en train.
D'accord. Oui. Et pendant ce voyage, vous n'avez rien bu?
Probablement.
D'accord. Alors, c'est très simple.
Dites-moi ce que me fait arriver.
Très simple. C'est ça, c'est tous les professionnels de la voix, c'est marqué dans le bouquin d'ailleurs, j'impose ça. C'est pas que je leur demande, je l'impose. Quand vous êtes en voyage en avion ou en train, le degré d'humidité de l'air, au lieu d'être à 60%, il est à 5%.
Oh mon Dieu.
Premier point. Donc la lubrification des cordes vocales, on y revient, elle est au plancher. Deuxième chose, quand vous parlez dans un train, ou quand vous parlez dans un avion, le degré de décibels de l'avion et du train, c'est 60 dB. C'est-à-dire la hauteur du bruit. Donc, il faut parler au-dessus des 60 dB. Donc, vous allez forcer votre
voix. Donc, on force, bien sûr.
Troisième point. La personne qui est en face de vous, elle va vous parler aussi fort. Donc, votre contrôle auditif, car la voix est contrôlée par votre audition, vous le savez mieux que moi. Vous ne pouvez pas chanter si vous avez un problème de tite. Eh bien, en montant, vous allez monter au-dessus d'elle. Et si, en plus... italienne comme vous êtes absolument pas fougueuse, pas du tout emportée, vous êtes très calme.
Les clichés, attention,
ça c'est le cliché.
Voilà, vous êtes très calme, il est évident que la fougue va forcer votre voix, et que se passe-t-il? C'est que la corde vocale a fait des petites déchirures vocales, c'est-à-dire ce qu'on appelle des élongations, comme un sportif, et ces élongations que vous allez sur les cordes vocales, la cortisone fera rien. Voilà. Il faut faire des séances de lubrification, c'est-à-dire des inhalations, et la mettre, hélas, au repos, ce qui est rare chez moi, mais j'impose un repos de 3 à 5 jours.
C'était la consultation du docteur Abitbol. Voilà.
Mais tout ça, c'est l'histoire capitale de tous les enseignants qui partent en voyage, qui reviennent de vacances et qui le lendemain ne peuvent pas enseigner. C'est la même chose.
Oui. On va tout de suite partir pour le Liban.
RFI.
Où l'on vous retrouve, professeur Abdoulatif Hamdan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ORL Foniat, chirurgien cervico-facial à l'Université américaine de Beyrouth. Est-ce que vous travaillez, professeur Hamdan, de la même manière avec les chanteuses, ou on va dire avec des patientes lambda qui n'ont pas un usage professionnel, émotionnel de leur voix?
D'abord, j'aimerais bien vous remercier, aussi professeur Abitbol, pour cette invitation. Bonjour Jean, vous allez bien?
Ça va être...
Sûrement, je vois des patients qui ont des problèmes dans la voix parlante et la voix chantante. Je vois des professionnels et les symptômes peuvent différer entre les deux groupes. Disons, pour une voix parlante, ça peut être un changement de timbre, d'intensité ou bien de la fréquence de la voix, alors que pour un chanteur ou une chanteuse, ça peut être un problème de transition entre les registres, problème de maintenir une note ou bien perte de gamme. Ou perte de puissance.
Est-ce que justement la nature, le statut de cette patiente va déterminer le traitement? Je veux dire par là, professeur Hamdan, qu'il y a des précautions supplémentaires quand justement la voix est l'outil de travail?
Oui, sûrement. Les précautions, c'est autre chose, mais d'habitude, à maintenir une hygiène vocale qui est propre, de point de vue... hydratation, régime alimentaire équilibré et ne pas fumer. Et avoir un comportement phonatoire qui est sain, ne pas abuser la voix, c'est très important. Mais pour les professionnels, il y a plus que ça. Ils doivent entraîner leur voix parce que c'est pas seulement une question d'être doué, mais il faut entraîner le voice box parce que ce sont des athlètes vocaux. Alors, il y a des exercices pour améliorer la respiration, le contrôle et le support, des exercices pour améliorer la souplesse des cordes vocales à travers agilité et flexibilité exercice, et puis comment savoir utiliser la voix résonante qui nous permet de projeter la voix avec le minimum d'effort possible à travers des modulations de la boîte vocale.
Mais Abdou, tu as la chance de travailler très souvent avec beaucoup de gens qui sont bilingues, et notamment dans nombreux chanteurs que tu soignes du Moyen-Orient. Est-ce que quand tu as un problème, tu les fais rééduquer dans ta rééducation vocale avec la langue maternelle ou la langue dans laquelle ils sont? Est-ce que pour toi, il y a une différence chez les chanteurs dans ce type de rééducation?
C'est une très bonne question, professeur Abbé. C'est vrai, parce que les paramètres acoustiques, ça diffère, ils sont influencés par la langue et l'articulation, que ce soit la fréquence ou bien les fréquences de résonance, dont la position et la dispersion dépendent de la configuration de la boîte vocale. Donc, les exercices qu'ils doivent faire, c'est naturellement en utilisant la langue maternelle.
Merci infiniment pour ces précisions, merci. Professeur Abdou Latif Hamdan, d'avoir répondu à nos questions. Et vous êtes également le fondateur et président d'honneur de la Société libanaise de la voix. Docteur Jean Abitbol, je ne vais pas vous laisser me voler mon travail en posant les questions à ma place. Je reprends mon rôle. Est-ce que c'est fréquent que vos patientes n'aiment pas leur voix?
Oui, c'est très fréquent.
Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là, il y a la rééducation, bien on sûr. A compris, il y a le physique, mais il y a aussi un travail sur soi. Et il nous reste assez peu de temps pour en parler.
Bien sûr. Alors, je vais d'abord vous raconter une anecdote au niveau du bilinguisme quand même. Si vous voulez, il m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière maintenant, la première fois c'était il y a une vingtaine d'années, d'avoir des gens qui se réveillent d'une anesthésie générale et qui parlent une langue que je ne comprends pas. Et l'exemple que j'ai dans le livre, j'en parle, c'est Giovanna qui est une Roumaine, mais j'ai eu ça avec Mario qui était un Grec il y a 20 ans. Eh bien, elle se réveille d'anesthésie, j'opérais d'un peu de la corde vocale, elle parle une langue que je connais pas. La nurse qui est là, la chance veut que très souvent ben comprenne, et j'ai peur qu'il fasse un AVC. En fait, la première région qui s'éveille après une anesthésie générale, c'est votre langue maternelle.
C'est incroyable.
Alors que ça, je le savais pas. Et chez cette femme ou chez cet homme, dont j'ai eu trois exemples comme ça dans ma carrière, c'était le troisième exemple, incroyable. Et je pensais qu'elle avait fait également un AVC. On a fait une IRM, on a tout fait, et au bout de 5 jours, sa voix est devenue une langue française sans accent. Et je lui dis, mais vous êtes roumain? Il me dit, mais pas du tout. Mais oui, enfin, j'ai vécu en Roumanie jusqu'à l'âge de 5 ans. Et en fait, sa langue maternelle était la première qu'elle a parlé.
La mémoire de la voix.
Exactement, il y a une mémoire de la voix qui existe, on en a parlé tout à l'heure, notamment, qui a été imprimée dans la vie fœtale. Et puis, deuxième chose, vous disiez que, est-ce que certaines patientes n'aiment pas leur voix? Oui, bien sûr. Il y a cette fameuse histoire que j'ai racontée moult fois, qui est l'histoire de l'avocate qui avait une voix grave et que je voulais pas opérer parce que sa voix collait à sa personnalité. Quelqu'un d'autre qui a une voix grave mais dont la personnalité ne marche pas, notamment quelqu'un qui a fait un lifting, qui est superbe, qui a 54 ans, j'étais un cocktail, elle se retourne, bonjour docteur, comment ça va? Ça peut pas le faire. Et à ce moment-là, oui, cette patiente, il faut l'opérer parce qu'on peut rajeunir sa voix, effectivement.
Anna Daniela Sestito, j'avais prévu de vous demander de pousser la chansonnette, même si dans votre cas, c'est au-delà de la chansonnette. Vous avez un petit problème de voix. Qu'est-ce que vous faites justement pour en prendre soin en ce moment?
En ce moment, j'essaye d'observer une hygiène de vie vraiment impeccable, donc de dormir beaucoup. Le sommeil réparateur, de prendre des tisanes à base de jus de citron, de gingembre, de miel, bien sûr, de ne pas parler. Parce que quand on est dans cet état, je pense que c'est aussi une chose qu'il faut faire, c'est indispensable. Et voilà, de me reposer, mais en même temps, j'écoute, je continue mon travail.
Voilà. Alors ce qui est génial, c'est qu'effectivement, elle écoute, donc son monde de la musique, qu'on appelle les neurones miroirs, mais c'est une autre histoire, continue fait que ses cordes vocales continuent à bouger, même si elle ne chante pas.
En tout cas, merci
pour moi,
beaucoup.
C'est important.
D'autant plus cet effort que vous aviez, on va le dire simplement comme ça, à notre manière, mal à la gorge, de venir nous voir. Merci beaucoup. Anna Daniela Sestito, je rappelle que vous êtes artiste lyrique. On va vous retrouver avec l'ensemble Aidez-moi. Pour une série de concerts, notamment le 14 mars, dans l'écrin de la chapelle du Musée des Arts et Métiers.
Oui.
J'ai vu les images, c'est absolument magnifique. Date à Paris, le 14 mars. Oui. Et merci beaucoup à vous, docteur Jean Abitbol. Ce livre passionnant, Voix de femmes, publié aux éditions Odile Jacob, on l'a compris, vous êtes médecin, ORL, phoniatre, chirurgien cervico-facial. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Santé, activité physique, tout de suite dans Priorité Santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une pathologie fréquente chez le sportif. Il s'agit de la périostite tibiale. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, docteur Sen?
Eh bien, la périostite tibiale, c'est une inflammation du périoste. Alors, le périoste, c'est quoi? C'est un os, c'est une lame de tissu qui entoure les os. Alors, c'est constitué de deux couches. Il y a une couche superficielle qui est plutôt faite de collagène et qui est en lien avec les tendons, les muscles qui de la jambe. Et puis, la couche interne qui est constituée de cellules, qu'on appelle des ostéoblastes, et qui participent à la minéralisation de l'os. Alors ça, on se rend compte que ça existe et ça apparaît surtout en début de saison. En début de saison, lorsque les sportifs vont reprendre leur activité et qu'ils redémarrent trop vite, eh bien les douleurs peuvent apparaître. Donc les débutants aussi, bien sûr, vont pouvoir avoir ce type de douleurs. Et en sport collectif, eh bien on se rend compte que quand on augmente brutalement la fréquence de pratique, par exemple de 2 fois par semaine, et puis la personne va s'entraîner 4 à 5 fois par semaine, eh bien, les douleurs vont apparaître. Par exemple, dans les sports collectifs, c'est les footballeurs. Footballeurs qui maintenant jouent sur des terrains synthétiques ou qui font du foot en salle, eh bien, voient une explosion des périostites.
À cause de quoi? À cause du contact avec le sol? Plus brusque.
Absolument. Il y a cet effet finalement biomécanique là qui est très important. L'impact. Et puis, il y a ces muscles. Il faut savoir que les muscles qui s'insèrent là sont innervés. Et c'est ça qui fait, bien sûr, très mal. Et en fait, ils vont, en fait, à l'appui au sol, il va y avoir un muscle particulier, qui est le tibial postérieur, qui va se contracter et qui va créer cette périostite.
Alors, du côté des symptômes, c'est quoi exactement les signes de la périostite tibiale?
C'est d'abord la douleur, d'abord et avant tout la douleur, qui est vraiment située au niveau de la partie interne du tibia. Donc, devant la jambe, là, on va avoir cette douleur qui va faire quelques centimètres et qui va apparaître surtout lorsqu'on va marcher ou lorsque l'on va courir. Et c'est une douleur qui peut être vive, hein, qui peut obliger l'arrêt de la course. Et la douleur disparaît justement quand la personne arrête de courir. À la palpation aussi, si on palpe cette zone, on peut quelquefois sentir des petites du gonflement, et puis on réveille bien évidemment la douleur. La radiographie, quand on fait des radios, on voit souvent pas grand-chose. Il faut aller faire une IRM ou une scintigraphie pour vraiment faire le diagnostic, mais c'est vraiment des examens un petit peu lourds.
Alors voilà du côté des signes, des symptômes. Maintenant, du côté de la prise en charge, docteur Sen.
Eh bien, pour traiter tout ça, la première chose, c'est que la personne peut appliquer de la glace pour essayer d'avoir un petit peu moins mal. Et puis, essayer d'être au repos ou diminuer la charge d'entraînement, hein, parce que c'est ce qui va être important. De plutôt courir, quand c'est possible, sur des sols plutôt souples pour vraiment se soulager. Alors, comment est-ce qu'on glace? Eh bien, on met des glaçons tout simplement dans un gant ou dans un sac plastique. On protège bien la peau, parce qu'il faut savoir que le froid brûle. Et puis, on peut glacer pendant une vingtaine de minutes. Vraiment, ça soulage bien. On peut, pourquoi pas quelquefois prendre des anti-inflammatoires, hein, mais sur une période très courte, parce que sinon on risque d'entretenir vraiment cette douleur.
On les prend soi-même ou on va voir un médecin qui nous les prescrit?
C'est bien d'aller voir un médecin, parce que effectivement, si on prend soi-même des anti-inflammatoires, ça veut dire qu'on a fait le diagnostic et qu'on risque bien évidemment de passer à côté d'une autre cause de douleur. Et puis, il y a une autre chose alors qui peut paraître un petit peu douloureuse au début, mais qui est de faire des massages profonds en regard. Alors c'est vrai que c'est un petit peu, hein, c'est pas prendre le rouleau à pâtisserie sur le tibia tout de même, mais c'est le fait de masser ces tissus parce qu'en fait on va les renforcer. Et en les renforçant, alors ça fait mal au début, et puis après ça fait moins mal. Hein, et ben, il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir un peu pour pas avoir mal aux jambes. Et puis, faut pas hésiter à procéder à certains étirements. Je vous ai donné la cause d'un muscle tibial postérieur. En fait, on peut l'étirer légèrement en faisant une rotation externe du pied. On met la pointe du pied vers l'extérieur et ça va étirer ce muscle. Et puis, dernière chose que l'on peut réaliser, c'est d'essayer d'analyser un peu mieux la course, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question biomécanique d'appui au sol. Donc si on court un petit peu mieux, si on écrase un petit peu moins le pied, eh bien on va moins solliciter justement cette zone, il va y avoir moins d'effets mécaniques sur ce périoste. Et puis on pourra éventuellement aussi mettre certaines orthèses plantaires qui permettent d'assurer un certain maintien et d'assurer un certain amorti justement également au sol grâce aux orthèses que fabriquent les podologues.
Merci beaucoup docteur Jean-Marc Sen, je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Priorité santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussama Ké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, on parle des parasites corporels et capillaires, pougales et autres morpions. Vos questions, vos témoignages, 33 84 22 75 75 et notre page Facebook. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.